Bonsoir et bienvenue dans les histoires à dormir debout. Pour ouvrir cette deuxième saison, nous allons rester pour cet épisode dans un cadre auvergnat. Comme je suis visiblement un peu sadique, je vous reviens avec une histoire sordide, inspirée d'un réel fait divers qui s'est déroulé à Saint-Flour, dans la ville haute. Si on excepte la trame narrative, dans le sens où j'ai imaginé comment les personnages auraient pu aborder les sujets ou comment ils se surnomment, absolument tout le reste est vrai. Y compris une réplique qui est une citation et que je vous laisse chercher si le cœur vous en dit. Je remercie Eva, Ninon, Briac et Aurélie dans leur ordre d'apparition. Plongeons à présent dans cette histoire qui s'intitule Sainte-Fleur. Il se rapproche brutalement du volet de la fenêtre. Seul un rayon de bleu clair et assombri à la fois, typique de la fin de soirée, trahit la prunelle de ses yeux exorbités. Il écoute, de l'autre côté de son trottoir, des pas survenir, puis se stopper, tandis que la fenêtre d'en face reste immobile.
Oh mon Dieu! Il a encore jeté ses mains sur notre mur.
Mais quel porc !
Calmez-vous, mes sœurs. La situation ne durera pas. On le sait.
Qu'elle s'arrange vite. Je n'ai pas encore l'intention de partir, mais cet homme est vraiment terrifiant.
Ce même homme qui se met à hurler.
Si on nous expulse, on nous suicide !
Il ne sait si elle l'a entendu. Toujours est-il que lui les entend repartir.
C'est ça, dégagez.
Il les perçoit revenir. Il lève son fusil et s'amuse à dépasser le canon de la fente. Cette fois, elle déguerpisse. Un grand sourire l'asperge. Et tout en ramenant son fusil à l'intérieur, il se met à caresser son arme.
Des armes. Bleu comme la terre.
Cet homme, d'une cinquantaine d'années, se surnomme l'intellectuel. Il reste de longues minutes assis par terre, en tailleur, à regarder le soir s'écrouler sur la France, l'irrespirable nuit écraser les preuves journalières, à travers la fente qui progressivement n'éclairera plus. Ça y est, maigre lueur. Il frappe au sol avec le poing et s'adresse à l'obscurité derrière lui.
Qu'est-ce qu'il fout ? La nuit arrive !
Il va arriver.
La nuit arrive ! Il doit être là !
Il va arriver.
La nuit arrive ! Il n'est pas là ! Tu le crois ça ?
Il va arriver. Il faut qu'il arrive et il va arriver.
Les vieilles pétasses d'en face vont en profiter s'ils n'arrivent pas. Ça leur ferait trop plaisir à ces diablesses. Ah, que j'aimerais les buter. Faut qu'il arrive, et vite !
Il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas. Il va arriver.
La sonnette retentit, comme une cloche sentencieuse. L'intellectuel se relève, péniblement. Il marche en titubant, déterminé et hébété à la fois, dans le noir abstrait. Il manque de tomber en trébuchant sur un son plumé. Il atteint la porte et l'entrebâille rapidement. Possédant de l'argent liquide, il attend de pouvoir le léguer à la main courante qui finit par pénétrer maladroitement la porte. L'air de l'extérieur en profite pour entrer. L'intellectuel retient sa respiration jusqu'à sa question quotidienne.
Il y a bien les chocolats Yes avec le reste ?
Oui.
Ok.
La main ressort à l'extérieur et revient avec un panier rempli de produits alimentaires, mais surtout de bouteilles d'alcool. Une vingtaine à tout casser. Et juste pour boire, s'y déniche également un renflouement important d'alcool à brûler.
À demain.
Ouais.
L'obscurité revient, tout juste teintée par des lointaines lueurs de lampadaires. L'intellectuel reprend son souffle bruyamment et cependant un bon moment. Il porte le panier.
S'arrête ! Tu m'entends ?
Il est arrivé ?
Ouais, viens vers moi. Je suis près de la porte.
Il entend les pas de sa sœur lui parvenir. Il sent, au toucher, la main de celle-ci lui donner un paquet d'allumettes. Il se dirige vers l'évier, posant le panier dessus, toujours dans le noir. Il manque à nouveau de trébucher. Il ne se fait pas à cet obstacle, alors qu'il connaît tous les autres recoins de cette maison. Il retrouve sa lampe à alcool au toucher, la remplissant avec, et il l'allume ensuite avec l'allumette qu'il avait préalablement humidifié. Aussitôt, les flammes se dressent dans la bâtisse. Le visage de l'intellectuel retrouve celui de sa petite sœur, la paysanne. Elle est brune, avec des cheveux très courts, des yeux bleus, un grand corps élégant, tout l'opposé de son frère. Tous deux portent des habits sales depuis plusieurs mois, même trop grand pour eux, et leurs joues sont creusées par l'assèchement de plus en plus rude de leur désert existentiel. Tout ici est marqué par Diogène. Les ordures s'empilent dans chaque endroit, rien ne semble activer les différences entre les pièces, et les murs sont tapissés de peintures noires, sans aucune autre ostentation. La paysanne, qui porte un petit aquarium où végète un poisson rouge, se dirige à son tour vers l'évier pour attaquer la cuisine. Elle avance sans tituber, mais chaque pas pèse la fatigue du forcené. L'aquarium est posé. Elle disperse de l'alcool sur la poêle, attend un peu, extrait du panier les côtes de veau du boucher, les dispose sur l'accessoire et allume à l'aide d'une longue allumette. L'intellectuel, de son côté, a déjà entamé une nouvelle bouteille. Tous deux ne se parlent pas, ou alors eux-mêmes, en espérant faussement que l'autre écoutera.
L'intellectuel, ton fusil traîne toujours près de la fenêtre. Faudrait le ranger.
Oui.
Il retourne vers la fenêtre, dont les vitres sont couvertes de traces grasses de doigts. Il manque de trébucher sur son obstacle, et cette fois, il faillit vraiment se viander.
Nom de Dieu ! Il va finir par me casser la gueule !
Déplace-le au pire. Il a fini de profiter du soleil.
L'intellectuel opine de la tête. Il se baisse. Il attrape le sac de couchage qui le gênait tant, et le tire jusqu'à la chambre la plus proche. Les lointains témoignages d'allumage se reflètent sur lui. Tout est masculé d'os. Il finit par le lâcher, sur le parquet. Il entend des ossatures se déplacer. Il vérifie vite dans le sac de couchage. Non, le squelette reste tel qu'il était, et ce depuis 3 ans. Très bien. Rien ne doit bouger. Il revient vers la paysanne.
J'ai cru que j'avais cassé le scientifique, à cause du bruit.
Donne-moi une bière, ça t'évitera de dire des conneries, et moi de crever de froid.
Putain. putain de pays.
Putain de monde.
Il lui tend une bouteille de bière, qu'elle débouche immédiatement et absorbe comme s'il s'agissait de petit lait. Une heure plus tard, il s'assoit à table, l'éclairage toujours fourni par l'alcool. Le poisson les regarde avaler depuis l'évier. La viande a un goût de cendre, mais il préfère cette saveur à celle d'un restaurant extérieur. Il la mange d'ailleurs avec uniquement des couteaux.
T'as oublié ton fusil là-bas, du coup.
Oh, après tout, il est très bien là-bas, non? Je le sens, il va falloir redoubler d'intention. Elles vont bien arriver à nous jeter dehors, un de ces quatre. On doit rester prudent. Elles veulent qu'on crache le fric pour les lecs? Le loyer payé comme des petits toutous? Qu'elles aillent se faire mettre. On leur doit rien. Par contre, elles sont excitées par l'idée de nous soumettre, de tout nous prendre. C'est toujours les hyènes qui s'invitent au bal, à la fin.
Ouais, c'est ce que nous disait le scientifique.
C'est ça qui est lourdingue avec les aînés. Il faut toujours que ce soit eux qui sortent le plus dehors. Après, ils viennent toujours chouiner. Ils servent de terrain d'observation.
Il me manque.
Il est au chaud dans son couchage, là. Et lui n'a pas besoin de picoler pour ça.
Sur ce, il commence ses chocolat-yes. Ils continuent de boire ensemble, pendant des heures, rallumant constamment l'alcool. L'intellectuel finit par lui tapoter sur la tête. Ce manège, que même des enfants de maternelle trouveraient embarrassant, aboutit à une finalité inattendue.
Merde ! Qu'est-ce qu'on fout ?
Hein ? C'est-à-dire ?
Je blague. Mais ça fait combien de temps qu'on s'est pas parlé ?
Il y a quelques secondes.
Non, je veux dire, pour de vrai. Tu sais, une discussion avec un début et une fin, où tu termines différent de comment tu l'as commencé. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas parlé de nous ? Au lieu de machin, au lieu de machine, combien ?
T'as bu l'intellectuel. C'est la boisson qui te fait parler comme ça.
Peut-être, mais il n'empêche que j'ai raison.
Tu fais mal à la tête, surtout. On rigolait, là, non?
Mais qu'est-ce que j'en ai à secouer qu'on rigole?
C'est un peu agréable. C'est tout ce qu'il nous reste.
Marre de rigoler!
Mais de quoi tu voudrais parler?
Tu sais, la paysanne... J'ai toujours voulu te poser une question.
Une vraie question ?
Bah ouais, pas une question sur ce qu'on a bouffé ce midi.
Pourquoi faire ?
Pour me faire du bien. Pour me faire du mal. Qu'est-ce que j'en sais, puisque j'ai pas la réponse encore.
Et ça te prend comme ça, ce soir ? Tu ne sais pas pourquoi tu veux la poser. Ça sert un peu à rien.
Ça ne va pas m'empêcher de te la poser. La question servira peut-être à rien, mais elle m'habite depuis longtemps. Je ne veux pas crever sous les mains des bonnes sœurs sans savoir. Ça rendrait l'existence encore plus inutile qu'elle ne l'est déjà.
On va pas crever.
Paysanne, je veux savoir.
Elle avale sa salive. Ses yeux finissent par lui dire de poser sa fameuse question.
Tu aimais réellement ce nazi ?
Elle se resserre un verre.
Je ne crois pas que j'ai envie de répondre à la question.
Il s'agirait de se forcer. Oh, bon Dieu, je me sens déjà mieux de te l'avoir posée.
Oui, mais moi, je ne me sentirais pas mieux en te répondant.
Allez, c'est pas si compliqué d'y répondre. Ça date en plus.
Ça suffit.
Elle se lève, visiblement atteinte. Elle attrape son aquarium et fonce vers la chambre où demeure son autre frère. L'intellectuel l'y rejoint, bouteille à la main. Il la retrouve sur le rebord du lit, fixant le sac de couchage.
Tu penses à quoi ?
Je me demande si le scientifique se posait la même question que toi.
C'est normal. Tu l'as entraîné là-dedans.
Comment ça ?
Allez, réponds-moi. Tu aimais ce nazi ?
Non mais j'hallucine. Pourquoi c'est moi qui l'aurais entraîné dans tout ça ?
Il a fait les grandes écoles de Clermont-Ferrand. Et quand il est revenu ici, il s'est enfermé avec toi. Il sortait nous acheter la bouffe, et avec toi, il voulait plus sortir.
Parce que toi, tu as envie de sortir d'ici, peut-être ?
Non, mais lui, il le voulait de base.
Je n'y suis pour rien dans son choix de nous rejoindre. Je l'ai forcé à rien.
Oh, mais tu n'as pas besoin de forcer les autres. Il suffit que tu influences. En vérité, tu veux tout contrôler. Et pour ça, rien de mieux que de le pousser à rester ici.
T'es qu'un sale hypocrite. Ça t'arrangeait bien qu'il soit avec nous. T'avais quelqu'un sur qui te défouler.
Quand je le voyais rentrer les week-ends à Saint-Flour, je le trouvais beau. Il avait l'air si sain, si équilibré par rapport à toi, moi, papa, maman. Tu te rends compte, lui, il avait réussi à passer des diplômes. Il pouvait être ce qu'il voulait, réaliser son destin à sa convenance. Il avait les cartes en main. Rien ne me faisait plus rêver. Je rêvais qu'il puisse me protéger du monde. Qui pouvait atteindre mon grand frère diplômé, cette grande tête qui ne se ferait maltraiter par personne ? Il nous aurait rendus fiers. Il aurait dit à la ville que j'étais sa petite sœur, qu'il me prêterait des cartes à jouer, que je pouvais moi aussi vivre ma vie. Il n'aurait jamais dû revenir, peut-être. Pourquoi a-t-il brûlé ses cartes ? Pourquoi avoir tout gâché en s'enfermant avec nous, alors qu'il avait tout pour vaincre, pour réussir dehors ?
Parce que tout comme nous, il ne peut pas accepter comment tout ça fonctionne. Seulement, encore plus que nous, il a vu comment les coulisses marchent. Même si c'est pas lui qui en a payé le prix le plus cher.
Il s'assoit à côté d'elle et la prend dans ses bras. Ses sanglots se déversent, tandis que l'intellectuel contemple le squelette. L'espoir raté de la famille. La marque de leur damnation. L'arrêt final de leur nom extra-générationnel. Tout n'est que braise. D'ailleurs, il faut remettre de l'alcool à brûler. Dehors, la nuit est plongée dans le noir le plus total. Seuls les oiseaux nocturnes manifestent leur présence. La paysanne le rejoint. Celui-ci débouchonne une nouvelle bouteille.
Tu l'aimais, notre scientifique. Pas vrai ?
Oui, bien sûr.
Alors, je te pose la question aussi en sa mémoire. T'aimais ce nazi ?
Quel est le rapport avec lui ?
Il est revenu te voir aussi, par pitié pour cette histoire. Tu le sais très bien.
Et toi, pourquoi t'es jamais parti de cette baraque?
Parce que moi aussi, par pitié, je voulais absolument connaître la vérité. Je voulais connaître la réponse, d'une manière ou d'une autre. Pas te laisser toute seule avec papa et maman. Je pouvais pas supporter la vue de cette laisse.
Tu aurais pu la cacher dehors, la jeter dans l'ander.
Il m'aurait peut-être battu à mort. Désolé d'être lâche.
Il se rapproche de son fusil. Revient avec. Il s'assoit en tailleur face à sa sœur et commence à le caresser. Elle s'assoit à sa hauteur.
Il t'appelait sa honte?
Oui.
Il te promenait la nuit avec cette laisse.
Elle grattait.
Et maman comprenait. Elle ne voyait pas où était le mal.
Pourquoi aurait-elle fait cet effort?
On sait au moins que même les monstres clament.
Je sais surtout qu'on n'est jamais protégé par personne.
L'intellectuel finit par frapper la crosse du fusil sur son crâne, en silence. La paysanne se jette sur lui. Ils se débattent. Lui, déterminé à se frapper jusqu'à la fracture, elle, à l'en empêcher. La lutte dure jusqu'à ce que l'alcool cesse de brûler. La flamme revenue, il ne reste qu'une grosse bosse sur le front de l'homme. La paysanne pose l'aquarium sur ses genoux en s'asseyant sur une chaise. Elle regarde le poisson poursuivre ses reflets, se débattre avec, tourner avant de renoncer au mouvement et puis nager à nouveau. Comme si la situation avait changé entre-temps.
Tu vois, c'est ça que je ne pouvais supporter.
L'intellectuel termine sa bouteille.
La vie est insupportable. Que veux-tu?
Tu ne veux pas te tuer, dis.
Non, du tout. Je veux rester ici avec toi, à l'abri de toute leur merde. Je suis bien ici, au fond. Personne pour me plier. J'ai tout ce qu'il me faut. Rien ne peut m'atteindre. Les livres m'enrichissent, m'amusent bien plus que n'importe quel abruti de cette planète.
Moi aussi, je veux...
Elle se tait. L'intellectuel pointe son fusil vers elle. L'air grave.
Qu'est-ce que tu fous?
Tu es mon dernier rempart face à la civilisation. Mon dernier lien qui me rattache à l'humanité. C'est lourd comme corde d'attache, tu le sais. Je pourrais très bien la larguer et finir enfin comme l'animal libre que je veux être plus que tout. Soulagé définitivement de tout passé et de tout projet. Pourquoi pas peut-être carrément être moi-même, Mais je dois savoir pour y réfléchir.
Tu as trop bu.
Oui ou non? Aimes-tu réellement ce nazi? C'est pas compliqué, bordel.
Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas y répondre. C'est ma vie, c'est privé. Ça te regarde pas. C'est pas toi qui as été caché.
C'est ma sœur qui a été tendue. C'est ma sœur qui a couché avec un boche. Moi aussi, je suis dans le coup. Et je veux savoir si ma vie a tourné à partir d'un sentiment ou d'une pulsion.
Ma vie n'a tourné qu'entre des murs. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'y comprends déjà rien. Alors comment tu peux espérer avoir ta réponse?
Tu veux insinuer quoi? Tu veux insinuer que les trois autres filles qui étaient avec toi aussi, elles ont passé leur vie entre quatre murs? Arrête tes conneries! Il y avait quelque chose de plus!
Mais toutes les femmes de cette foutue planète vivent entre quatre murs. Toute notre vie, on nous fourre dans une boîte, avec les formulaires à remplir, les ordonnances de la société à respecter, les exigences de propreté physique et morale auxquelles on doit se soumettre, parce que nous sommes l'avenir de l'homme, paraît-il? Qu'on doit réparer vos incompétences tout le temps? Vous, vous pourrez toujours sortir. Vous pourrez toujours imposer vos avenirs. Vous pouvez coucher avec autant de nazis que vous voulez. Vous pouvez violer des juives. Vous pouvez même vous accaparer le mérite des victimes. Nous serons toujours les punis. Parce que vous savez que nous, on a été élevés dans une droiture forcée, que vous ne pourrez jamais connaître, tellement vous avez peur de vous sentir faible. Par contre, on devra toujours tout justifier à ça. Mais on n'est pas seul là-dedans. Les boucs émissaires, ce sont toujours les mêmes. C'est juste les endroits qui changent. Tu es aussi esclave du monde que moi. T'es en cage, toi aussi. Seulement, on te rasera jamais les cheveux pour te punir. Tu es inclus dans le coup. Pas moi, pas nous. Nous, on gêne. On outrepasse la cruauté natale. Alors oui, j'ai baissé les bras. C'était trop dur. Aucun repère dans aucune forme de vie que ce soit. Ni cet Allemand, ni mes propres parents ne m'ont sauvé. Ce sont les murs qui m'ont élevé, qui m'ont recueilli. L'horizon dehors, il a quoi à nous promettre, à part des douleurs à n'en jamais finir, l'injustice qui étouffe, et apprendre au fur et à mesure qu'en plus, rien ne sert à rien. Mais même avec cet horizon qui vous est promis, avec des alternatives, des précautions auxquelles nous n'aurons jamais droit, vous trouvez toujours le moyen de vous poser en victime réelle, parce que vous n'assumez pas la prison dans votre tête, parce que vous croyez qu'en la projetant sur des cibles, elle sera moins difficile à supporter. Moi, je la regarde en face, ma prison. Et j'ai décidé de la soumettre, de ne pas la subir, d'y faire ce que je veux. Et surtout de ne jamais participer à vos courses de chars qui nous laissent perdus d'avance. Alors oui, l'intellectuel, je te le dis bien en face. Elles aussi, elles ont passé leur vie enfermées. Et c'est uniquement et entièrement de votre faute, à vous tous, et à jamais.
Subitement, elle plonge sa main dans l'aquarium, attrape le poisson et l'avale d'une traite. L'alcool a brûlé, meurt encore. Sauf qu'il s'y rajoute une source de luminosité s'immisçant, venant du dehors. Les premières bleuités de l'aurore percent la fente. Les oiseaux de jour se réveillent. Le silence reste l'envahisseur le plus efficace du bâtiment. L'intellectuel jette son arme à l'autre bout de la pièce. Lentement, titubant comme un vieillard, il se rapproche de la fente. Ivre mort et hagard. Il regarde la fenêtre des bonnes sœurs. Il se tourne vers la paysanne.
Tu l'aimais?
La paysanne plonge son regard dans le sien.
Ah!
un pain de plastique de 250 grammes vient de défoncer l'ouverture de leur grotte. Les deux occupants ont à peine le temps de se lever et réagir qu'une bombe lacrymogène est balancée à travers le salon. L'intellectuel ne voit cette fois plus rien, non seulement à cause de la bombe, mais aussi parce que, pour la première fois depuis une décennie, la lumière envahit tout l'appartement. Ils n'ont pas eu le temps de réaliser ce qu'il se passait. L'intellectuel, en tentant de se précipiter vers son fusil, tombe en trébuchant sur une bouteille. La paysanne, elle, ne réagit pas avec véhémence. En 30 secondes, leur abri du monde est assiégé et les gendarmes s'y engouffrent. La folie consentie est terminée dans la brutalité que l'intellectuel avait prédit. Le GIGN, déployé en raison de l'information sur les armes que leur auront divulguées les bonnes sœurs, les entraîne dehors. Celle-ci assiste à l'arrestation. La plus vieille d'entre elles reconnaît la paysanne. Elle s'effondre immédiatement en sanglots. Les forces de l'ordre remontent la rue de la Montée des Roches. La paysanne avait fini par oublier que, depuis toujours, elle vivait en ville haute, que d'autres quartiers existaient. En contrebas, face à la Margeride, la ville basse de Saint-Flour se réveille pour une nouvelle journée d'argent et de loisirs. Ils atteignent la place d'armes, face à la cathédrale, qu'une lumière glaciale dynamite doucement. Elle se revoit enfant, avec la coiffe de la Catajane sur la tête, le cerveau empli de paix et les mains promises aux pierres fortes, telles celles volcaniques issues de Lieusargue ornant la cité des Hautes Terres. Et maintenant, la voici. Jambon bientôt raccroché à une autre tour. La fatalité. L'oxygène forcé. Le soleil dictateur, pliant à ses humeurs. L'Auvergne, au milieu de tout. Tandis que des agents restent dans la maison, notamment pour analyser le squelette, la paysanne et l'intellectuel sont poussés dans la voiture des forces de l'ordre, d'ores et déjà promis à l'hôpital psychiatrique de la ville. Ils sont tétanisés par leur impuissance, dépendant du bon vouloir d'animaux ayant accepté les règles du jeu. Est-ce bien ainsi que nous devons vivre ?